Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La maison est un lieu où l'on aime se sentir en sécurité. Pourtant, un certain nombre d'accidents se produisent entre ces murs. Brûlures, intoxications, chutes. Ces petites catastrophes du quotidien que l'on appelle les accidents domestiques et qui peuvent nous conduire un jour ou l'autre à consulter en urgence à l'hôpital. Aujourd'hui, nous allons essayer d'identifier les différents risques, parfois insoupçonnés, nichés dans un placard de la cuisine, sur l'étagère d'une cabane où sont stockés des outils, ou même dans le salon, un coin de table, le pli d'un tapis, une marche, dévaler trop vite, produits chimiques, chocs électriques. Agir donc d'abord en termes de prévention et quand l'accident arrive, intégrer les bons réflexes, les bons gestes avant la prise en charge médicale si nécessaire. Des recommandations mais aussi les fausses bonnes idées. Aujourd'hui, rendre la maison plus sûre, c'est notre sujet du jour dans notre émission Questions de femmes. Et pour nous joindre, le numéro WhatsApp de Priorité Santé, le 33 7 61 18 46 41. Les accidents de la vie courante à la maison, étouffement, chute, intoxication, brûlure, électrocution. Comment réagir et prévenir ces accidents domestiques? Un médecin urgentiste pour vous répondre, c'est vous, docteur Massamba Sassoun Diop, bonjour.
Bonjour.
Médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Et vous êtes également médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne en région parisienne.
Notre santé, si on en parlait.
Accident de la vie courante, hein, accident domestique, à domicile, dans le jardin. Avec déjà dans un premier temps, avant d'aborder les questions essentielles de la prévention, on va parler de la réaction immédiate. On se retrouve face à ce type de situation, véritablement dans la dynamique des premiers secours. Docteur Massamba Sassoun Diop, quand on n'est pas soi-même impliqué, blessé, réagir, organiser correctement la réponse face à une situation d'accident, il faut penser à quoi en premier ?
Déjà, on évalue. Il faut essayer d'évaluer la gravité parce que si c'est une petite brûlure ou une petite coupure, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui est inconscient, qui a fait une chute par exemple, ou quelqu'un qui s'est noyé. Donc en fait, il y a une évaluation extrêmement rapide qui permet de jauger de la gravité et à ce moment-là, l'alerte immédiate si c'est nécessaire parce qu'il y a une gravité et que les secours arrivent. Et là, on commence à ce moment à agir. Et il ne faut pas oublier de se protéger. En résumé, on fait les premiers pas. P pour protéger, se protéger, A pour alerter, S pour secourir.
Docteur Sassoun Diop, quand on parle communément des accidents de la vie courante, on parle de quoi vraiment ?
En numéro 1, c'est d'abord ce sont les âges extrêmes de la vie. Et tout petit, jusqu'à 5 ans, et les plus de, disons, 65-70 ans, et plutôt 80. Ce sont en numéro 1 les chutes. Ensuite, vous avez tout ce qui est un petit peu intoxication. Ensuite, vous avez les noyades. Et puis, vous avez tout ce qui va de style les coupures, tous ces types de problèmes que l'on peut avoir.
Est-ce qu'il y a une, dans la maison une pièce qui va être jugée plus à risque, plus dangereuse que les autres ? On pense à la cuisine. Moi, je pense à la cuisine.
La cuisine, c'est 25%
des accidents de maison.
Des accidents. Mais la chute, c'est ça le problème, c'est qu'en fait c'est un tapis, c'est de l'eau, c'est la salle de bain avec de l'eau, c'est vraiment ces situations un peu particulières. Je vous donne un exemple simple, là j'ai été amené à transporter une dame de 83 ans il y a deux jours. Ben, en fait tout simplement son chat a traversé, elle a voulu l'éviter et elle est tombée, elle s'est fait une fracture du fémur. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier qui est très important, ce sont les corps étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, la personne âgée va s'étouffer lors du repas et le petit enfant va s'étouffer avec éventuellement un aliment, mais en général plutôt avec un petit jouet. Il amène les choses à sa bouche et il s'étouffe. C'est aussi une cause importante.
Alors, identifier les risques, repérer les lieux, la situation, donc on a parlé de la cuisine, ça peut nous ramener au risque de brûlure. Précisément, première question WhatsApp de Marie. Elle demande, que doit-on faire en premier lieu lors d'une brûlure à la maison en cuisinant ?
S'il y a une chose à retenir, ce que je dis toujours, brûlure égale eau. Brûlure égale eau. Alors que des gens vont mettre de l'huile, vont mettre du beurre, vont mettre des œufs, vont mettre de la farine.
On ne fait pas de cuisine sur la peau.
Des poils de lapin rasés, du charbon. Enfin, non, pas de dentifrice non plus, de l'eau.
Est-ce que vous avez le sentiment, justement, en exerçant aux urgences, docteur Massamba Sassoun Diop, qu'il y a vraiment à la maison un certain nombre de risques totalement sous-estimés qu'on n'a pas vu venir, pour dire trivialement. Après, on se dit bien sûr, j'aurais pu éviter ça, mais on prend des risques inconsidérés.
En fait, l'accident est tellement vite venu. Tout simplement, la casserole qui n'est pas bien mise sur... Là, l'autre fois, on a eu exactement un enfant qui a été complètement brûlé avec de l'eau bouillante, un autre qui s'est assis dans la bassine d'huile. Des choses, un autre qui, c'est son boubou qui s'est enflammé en passant à côté du fourneau avec les braises. Donc, les chutes, encore une fois, c'est tellement... En plus, on peut les prévenir.
Précisément, quand on parle de prévention, fait quoi ? On peut pas vivre dans une bulle quand même ?
Non, mais déjà, quand on voit que quasiment 80%, ce sont des chutes chez les personnes âgées. Donc là, ça veut dire aménager vraiment la maison. Tout ce qui est marche, tout ce qui est irrégularité du sol, tout ce qui est tapis, tout ce qui est situation où il y a de l'eau, tout ce qui est poignée pour se tenir, rien que ça. C'est important. Il y a une autre chose aussi, c'est les surdosages en médicaments. Lorsque les personnes ont des médicaments qui font un peu dormir et que la personne âgée se lève la nuit, elle fait plus facilement des chutes liées aux médicaments qui la sédatent un petit peu, qui l'endorment un petit peu. Donc il faut faire aussi attention au type de médicaments et aux médicaments hypotenseurs éventuellement aussi.
Qui peuvent faire un petit peu, comme on dit, tourner de l'œil.
Qui font que justement, au moment où il va se lever en pleine nuit, sa tension va diminuer parce qu'il est un peu surdosé. Et à ce moment-là, il fait une chute.
Un malaise.
Donc c'est vraiment l'obsession, entre autres chez les personnes âgées, c'est la chute. Ensuite, chez l'enfant, c'est de s'arranger pour ne pas se retrouver en situation où il joue avec des jouets qui soient dangereux. C'est évident que ça veut dire une surveillance importante.
Et en tant qu'urgentiste, Dr Massamba Sassoun Diop, est-ce que vous vous retrouvez à rattraper des erreurs au sens où, après un accident domestique, des personnes pensent bien faire et en fait ne font qu'aggraver le problème?
Oui, alors typiquement, quand sur les brûlures, on voit tout ce qui est mis dessus, on leur dit non. Les gens pensent qu'il faut faire avaler de l'eau. Non, on ne fait rien avaler à un patient du moment où il n'est pas déshydraté. On ne remplit pas l'estomac. Alors quelquefois, le sucre, éventuellement, si c'était une hypoglycémie, il faut un petit peu en savoir si c'est le cas. Mais en tout cas, effectivement, on a des attitudes que l'on voit, qui sont totalement inadaptés. L'important, on pourra en reparler, si la personne est inconsciente, qu'est-ce qu'on doit faire? Si la personne a une hémorragie, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais effectivement, si elle se noie, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en tout cas, les gens ont tendance effectivement à faire des choses un peu inadaptées.
Faire vomir en cas d'ingestion d'un produit chimique, oui ou non?
Surtout pas.
Surtout pas.
Ça a brûlé à l'aller, ça rebrûle au retour.
Faire boire du lait?
Surtout pas.
Pourquoi,
en fait,
pourquoi les gens sont tentés de faire boire du lait comme antipoison, par exemple?
Les gens pensent que le lait, ça soigne entre guillemets tout. Et faut comprendre que c'est l'œsophage qui est détruit. C'est ce tuyau qui va de la bouche à l'estomac. Et qu'une fois qu'il est brûlé à l'aller, on ne sait pas quel est le niveau en fait, de la brûlure, de l'importance de la brûlure. Et c'est déjà tombé dans l'estomac qui lui-même a un mucus qui protège. Parce qu'il peut résister à un pH extrêmement acide. Et donc, une fois que c'est dans l'estomac, c'est dans l'estomac. À part le fibroscopiste qui va aller avec une caméra éventuellement regarder, on ne touche plus à cet œsophage. Et on ne va pas mettre de produit quel qu'il soit. Il faut savoir que le lait, c'est un peu gras. Et ça va même ralentir la digestion du produit. Donc, c'est-à-dire l'élimination. Donc, en fait, surtout pas.
Alors, tout de suite, nos premiers témoignages. C'est le moment de notre palabre féminin recueilli par Charlie Dupio. Cette semaine, nous sommes à la halte femme de l'Hôtel de Ville de Paris. Des femmes seules y sont accueillies le jour ou hébergées la nuit par le SAMU social. Et aujourd'hui, elles sont quatre autour du micro. Clorinda, 38 ans, Najia, 43 ans, Eva, 44 et Kenza, 60 ans. Et c'est Eva qui entame la discussion.
Tu oublies que tu as laissé quelque chose sur le feu. Moi, des fois, j'oublie. Par exemple, une théière et je prends ma douche. Je sors des fois même. Oui, j'oublie.
Alors, je ne savais pas manipuler la cocotte minute. Je me suis brûlée.
Ah oui, parce que alors, la cocotte minute, si on explique, c'est une cocotte qu'on ferme et qui agit avec la vapeur à l'intérieur. Et si on l'ouvre, on peut se prendre la vapeur sur nous.
Il faut compter les minutes pour l'ouvrir. Moi, je ne savais pas, je l'ai ouvert et puis ça a sauté. Et toute la vapeur, oui.
Et vous avez eu la vapeur sur votre visage?
Bien sûr, après je me suis soignée, tout ça. Brûlure de deuxième degré. Il y avait les pompiers qui sont venus et tout, et j'étais à l'hôpital, je me suis soignée. Il a fallu du temps.
Combien de temps vous êtes restée à l'hôpital?
Je suis restée à l'hôpital 2 mois.
Moi j'ai déjà eu l'histoire de la cocotte minute aussi, c'était le début pour les haricots rouges, où ma mère m'apprenait, même disait qu'il faut toujours... Il y a un petit bouchon, il faut toujours débouchonner pour faire sortir la vapeur. Donc moi j'avais fait l'inverse et ça avait la tête de la cocotte était partie. Voilà. Mais moi heureusement j'étais juste au fond, à côté du frigo. Donc quand j'ai vu ça et retentir et le reste monter derrière ça, j'ai dit j'ai brûlé une étape.
Le bouchon est parti et pouf, la vapeur
même
aussi.
Même tout la tête, même tout la tête de la cocotte, il y a une partie qui a propulsé en fait, mais heureusement j'étais derrière comme ça, j'ai dit et j'ai regardé. Oui. Pour ça, là, le cœur, je ne sais même pas si j'avais un cœur, hein, parce que tellement qu'il battait et les jambes tremblaient. Donc j'ai eu peur, j'ai eu vraiment vraiment peur et je me suis rendu compte que quand ma mère me prévenait, c'est qu'elle savait ce qu'elle disait quoi.
Et vous aviez quel âge ?
J'avais peut-être 16 ans. J'ai dit, après ça elle est venue, ma mère est venue, je t'avais dit, qu'est-ce que je t'avais dit ? D'abord il faut enlever la tête de la cocotte, on enlève sous le feu et après il faut laisser refroidir. Mais, quand on débute, on nous apprend à cuisiner.
Moi j'ai pas eu ça mais... J'ai eu l'expérience de mon petit frère avec ma mère, où c'était avec une soupe marocaine, en fait. La harira, voilà. Et mon petit frère, en fait, il venait de sortir de la salle de bain, il a glissé, mais il s'est rattrapé, en fait, la cuisine n'était pas loin. Et en fait, la soupière est tombée sur lui, avec les pois chiches qui collaient sur le corps. Je voyais ma mère prendre de l'eau froide et le mettre sur lui. Elle l'a enveloppé dans un drap, on a couru à l'hôpital. Voilà, c'était ça.
Il avait quel âge ?
Il devait avoir 3-4 ans. Et maintenant, il n'a aucune marque. Après, on l'appelait la momie parce qu'il était en bandage vert. Vous savez, c'était du camp, ça sentait la menthe, en fait, je crois. Et il était tout enveloppé avec des bandelettes comme ça. Et en fait, ça faisait la momie. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, il n'a gardé aucune trace, aucune séquelle, ni psychologique, ni physique. Donc, ça s'est bien passé, tout va bien.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Je devais avoir, je pense, une dizaine d'années. Pour moi, c'était un film d'horreur en direct. Hein. C'était horrible, vraiment. À vivre, je tremblais. Là, bon, avec le recul, je suis adulte. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était assez pénible à vivre pour un enfant, parce que moi-même, j'étais enfant. Donc, c'était assez traumatisant pour moi, beaucoup plus pour moi, finalement, que pour lui, parce qu'il n'était pas conscient. Il a eu certainement mal, bien sûr, qu'il a eu très mal. Mais moi, j'ai été très marquée longtemps après, puisque j'en ai beaucoup parlé de cette histoire, justement. Et là, ça fait, c'était il y a plus de 30 ans maintenant, quand même.
Et est-ce que chez vous, ça a créé une sorte de crainte du feu ?
Oh là là, moi, ma fille, je fermais la porte. En fait, j'ai mis exprès une porte avec un verrou, avec des clés, pour ne pas qu'elle rentre. Parce qu'à partir de 2 ans, dès qu'il commence à marcher vers les 3 ans, où il commence à poser des questions, à moi-même de poser des questions, il commence un petit peu à toucher partout. Donc moi j'avais juste une phobie en fait. Dès que cuisine enfant, pour moi je pense à ça, ou beaucoup plus grave. Donc du coup, ça m'a servi pour mieux protéger ma fille, mais en même temps c'est perturbant de dire tout le temps, oh mon Dieu, le feu, attends, est-ce que la porte est fermée ? Moi c'était, est-ce que quand j'avais mis tout ce qu'il fallait, enfin je veux dire que j'étais en train de cuisiner, mais je quittais la cuisine, il fallait tout de suite clé, fermer le verrou, il fallait que ça soit sécurisé pour justement que ma fille ne touche pas. C'est stressant, mais c'est une bonne leçon. C'est un mal pour un bien. Voilà, on se dit ça.
Mieux vaut prévenir que guérir, ces témoignages recueillis par Charlie Dupio, docteur Massamba Sassoum Diop. Je vous ai vu acquiescer quand on entendait la maman qui a mis le petit avec de l'eau, plus le drap, plus l'hôpital. Conséquence, il va bien.
Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met de l'eau, on refroidit la brûlure, on l'empêche de continuer à évoluer. Par exemple, d'un premier vers un deuxième degré ou d'un deuxième vers un troisième, où les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. On peut être amené à devoir faire des greffes, par exemple, parce que c'est d'un deuxième profond ou un troisième. L'autre chose, ça calme la douleur. N'importe qui, quand vous êtes brûlé, vous mettez le doigt sous l'eau, en fait, ça va vous calmer. Donc ça, c'est deux effets extrêmement importants. Et là, ce qui était intéressant aussi, c'est de montrer, vous avez vu, à la fin, elle parle aussi de cette prévention. Mmh. C'est-à-dire que l'enfant, on ne sait pas, ça va tellement vite, l'accident, la chute d'une table, le fait de passer sur un balcon, l'enfant qui veut regarder, il met une chaise, et avec la chaise, il regarde et il passe de l'autre côté. Nous, on en fait tout le temps, malheureusement, des défenestrés qui tombent donc de 2e, 3e, 4e étage. Il faut savoir qu'un enfant, c'est tellement rapide cet accident.
Et curieux.
Et chaque fois, on croit, on dit non, mais c'est bon, je le surveille. Vous tournez la tête, ça y est. La noyade dans la piscine, les gens qui ont une piscine ou en mer, l'enfant, il court, il ne sait pas nager, il va direct. C'est pour ça que d'ailleurs, en tour dans la prévention, c'est dès qu'on peut, on leur apprend à nager. Et c'est vraiment ces éléments-là de surveillance qui sont majeurs, en dehors des systèmes de protection, comme on avait vu, de prévention pour les personnes plus âgées.
Alors, une première auditrice, on part tout de suite pour la République démocratique du Congo.
RFI à Goma.
Et en ligne avec nous, c'est Mia. Mia, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes âgée de 38 ans. Ça doit bouger hein, chez vous avec les garçons. Combien d'enfants vous avez à la maison ?
J'ai 6 garçons. L'aîné a 14 ans et les plus petits, 2 ans.
J'imagine qu'avec cette petite troupe à la maison, vous avez dû être confrontée à pas mal de frayeurs. Vous avez déjà eu des accidents chez vous ?
Oui, oui, j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup, vraiment. Par exemple, l'un qui a aujourd'hui 11 ans, quand il avait 6 mois, il avait avalé les clous de 2,5 cm.
Et du coup, quand il a ingéré ce clou, vous êtes allée à l'hôpital ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Oui, on avait fait vraiment des tours, 4 jours de tours, Goma, Kigali, donc au Rwanda. Ouais. Et c'est là où on a eu la solution. On avait fait l'endoscopie, on a pu récupérer les clous. On n'a pas eu de séquelles, mais à chaque fois qu'il bougeait, à chaque fois qu'il faisait des petits accidents, on criait, donc on les protégeait trop.
Donc ça veut dire aujourd'hui, comment vous faites ? Est-ce que vous avez fait des aménagements dans la maison pour éviter un certain nombre de risques ?
Oui. Actuellement, j'ai pris une maison avec des pièces, là où nous occupons comme salon et chambre, et une autre pièce que j'occupe comme dépôt, cuisine et tout ça, pour essayer un peu de gérer et de les imiter. De sorte que dans leur chambre, qu'il y ait seulement les lits.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez carrément aménagé la maison pour éviter les accidents, pour sécuriser les enfants.
Oui, parce qu'après ça, il y a eu des séries, il y a l'un qui fait les toboggans sur les lits, les tâches, et j'ai même fini par détacher ça. Les autres qui imitaient les histoires de super-héros. Alors avec toutes ces séries-là, j'ai carrément changé. Ouais.
Mia, vous avez le cœur bien attaché, parce que comment vous faites avec ces 6 garçons qui vous font la folie dans la maison, là ?
Alors, je peux dire que vraiment, ce n'est pas facile. Je me dis, est-ce que c'est moi que ça se passe comme ça, ou bien c'est parce que j'ai seulement des garçons ou quoi ? Je ne travaille pas, je suis obligée de rester à la maison. Les femmes ménagères que je prends, ce sont toujours des femmes, je ne prends jamais des fillettes, toujours pour protéger les enfants.
Et elles en disent quoi, les dames qui vous accompagnent à la maison ? Elles arrivent à gérer ces dangers ?
Alors, quand je ne suis pas là, ce n'est pas facile. Elles ne préfèrent pas quand je ne suis pas là. Donc, je suis obligée de sortir quand elles sont à l'école.
Est-ce que vous avez des questions précises sur la sécurité de vos enfants ? On le redit, 6 garçons à la maison, par rapport justement aux risques qu'ils encourent. Allez-y, je vous en prie, Mia.
Alors, ma question était de savoir, est-ce que les garçons sont très exposés plus que les filles ? Je vois les gens qui ont des enfants, filles, ne sont pas tellement agités comme moi.
Est-ce qu'il y aura un critère de genre, docteur Massamba Sassoundiop ? On va dire simplement, très concrètement, au service des urgences, est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie ? Davantage de garçons victimes d'accidents ?
Oui, c'est sûr que c'est ce que nous constatons. Maintenant, est-ce que à une fille, une petite fille, on va avoir tendance à lui donner des jouets type la poupée, différentes choses qui font que ce jeu qu'elle fera sera moins à risque. Est-ce que le garçon, on va le stimuler, le pousser
physiquement à fond,
voilà, pour lui dire allez vas-y bouge, fais ceci ou cela. Et quelle est la partie liée au chromosome X et Y ? Là, c'est plus complexe, mais en tout cas, ce qui est sûr dans la réalité aujourd'hui, quelles que soient les causes, on n'est pas sur les mêmes types de risques entre les garçons et les filles. Et quand on dit que les garçons sont casse-cou, c'est incontestable.
Et vous avez fait quoi ? À part ces pièces différentes, des personnes qui surveillent, vous arrivez quand même à gérer aujourd'hui. Est-ce que finalement, Mia, vous avez réussi à réguler les choses et il y a moins d'accidents à la maison ?
Oui, je peux dire qu'il y a moins d'accidents parce que j'ai tout mis à plat. J'ai détaché les lits, les films, et j'ai déjà commencé à gérer. Je n'achète pas toujours l'abonnement Canal Plus pour essayer un peu de voir est-ce qu'il y a trop de super-héros ou pas. Les amis, je cherche à voir et qui vont venir à la maison, qui ne vont pas venir. Je mets toutes sortes de choses pour éviter les accidents. Sinon, à chaque fois que je sors, il y a toujours des surprises.
Il y a toujours des surprises. Vous devez être fatiguée, Mia.
Oui, c'est très bien. Mais il y a une chose aussi, c'est lorsque l'enfant se cogne, qui sait que ce coin fait mal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est lorsque il sent que c'est un peu chaud, qu'il faut peut-être pas toucher la casserole. Donc tout est dans, on ne doit pas exposer l'enfant, mais en même temps, l'apprentissage de la vie, c'est à chaque fois avec des dangers. Donc en fait, il faut juste gérer ces dangers. Mmh. On ne peut pas complètement isoler l'enfant de la vie.
Moi, j'ai une question très concrète. Mais ils font du sport, les petits, avec justement des gens qui les accompagnent, qui les encadrent un petit peu pour qu'ils se défoulent en dehors de la maison?
Non. Le problème, c'est moi. J'ai peur.
Par contre, ça, c'est important. Il faut que l'enfant, en sécurité, puisse quand même se développer. S'il ne se rend pas compte des dangers qu'il y a dans la vie, à un moment, il y sera confronté. Mais vous ne serez pas là. Ouais, ça fait partie de l'éducation. Il n'y a que quand ils sont tout petits que c'est plus compliqué. Parce qu'à un an et demi, quand il se met à marcher à quatre pattes, c'est difficile de lui expliquer que le jouet, il risque de respirer, que ça va passer, qu'il va se retrouver à faire un arrêt respiratoire. Ça, c'est parce qu'il fera une fausse route. Ça, c'est plus compliqué à expliquer. Alors,
basket et foot pour tout le monde, on va dire, Mia. On vous remercie beaucoup pour votre témoignage, pour votre choix musical aussi. On va écouter Diamond Platnumz avec Comment ça va. On se retrouve juste après dans Priorité Santé, question de femme.
To love you, would you still leave here with me if I didn't have a dollar? You fucked up my brother, put lipstick on my collar. Could be my dirty secret if we keep it undercovers. Come on, Sava, it's nice to meet you. You couldn't wait, so you said fuck me in the club. What made you walk my way? Was it my smile or my diamond Rolex? You ain't seen nobody else in the place until you heard me say, come on, Sava, come on, Sava, come on, Sava, come on, Sava.
Como ça va?
Émission Question de femmes. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle des accidents de la vie courante, les prévenir, savoir réagir toujours avec le docteur Massamba Sassoun Diop, médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar. Et c'est de Dakar justement que Nafissa nous a envoyé ce message sur le numéro WhatsApp de l'émission 33 7 71 18 46 41. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Nafissa, j'ai 37 ans, j'appelle de Dakar. Je suis également maman d'un garçon de 14 mois. Aujourd'hui, je souhaite avoir des réponses par rapport aux gestes et attitudes à adopter en cas d'accident domestique. Dans un premier temps, en cas d'étouffement, que faire pour soulager l'enfant? Parce qu'il m'est arrivé un jour de lui avoir donné un bout de pain, c'était au tout début de sa diversification. Ne l'ayant pas vu mâcher ce bout de pain, j'ai pensé qu'il l'avait avalé. N'ayant aucune notion de base quant aux gestes de premier secours et tout, j'ai eu peur, je me suis sentie diminuée face à la situation. Merci de me donner les rouages, les gestes à adopter. La deuxième question, c'est par rapport aux prises électriques. Si un accident arrive, que faire dans ce cas précis? Merci de me donner plus de précisions. Je vous souhaite une très bonne journée.
Docteur Massamba Sassoun Diop, cas de figure très redouté, l'ingestion d'un objet, fausse route, bref étouffement. Est-ce qu'il est possible de décrire les gestes de premier secours dans le cas de Nafissa? C'est important de spécifier l'âge de l'enfant, 14 mois, donc c'est un grand bébé.
Tout à fait. On le prend dans la main, avec les deux doigts, index et majeur, on va tenir la bouche un petit peu ouverte. On incline le bras vers l'avant à peu près de 30 degrés. L'enfant étant couché, le ventre contre la main, c'est-à-dire qu'en fait la face
vers le sol,
voilà. Et on va avec l'autre main entre les deux omoplates. Donc là, l'enfant est incliné de 30 degrés. Mmh. On va taper dans le dos, parce qu'en fait, chez un adulte, on ferait la même chose, sauf que la personne est debout et on l'incline éventuellement un tout petit peu vers l'avant. Mais là, cet enfant, on le couche carrément sur le ventre, sur la main, et on va taper assez énergiquement pour en fait permettre l'expulsion. Quand vous allez taper entre les deux omoplates, ça va faire sortir le corps étranger. Donc oui, il faut le faire. J'en profite pour préciser une autre chose qui est très importante. On a divisé par terre trois fois moins de morts subites pour les enfants, les 0 à 1 an, en les couchant simplement sur le dos et pas sur le ventre. Donc j'en profite, c'est extrêmement important. Les enfants, les petits, les nourrissons, sauf s'ils ont des régurgitations, couchez-les sur le dos et pas sur le ventre. Pour ce qui est de l'autre problème dont elle parle.
Prise électrique.
Alors déjà, je vous donne un exemple. Attention, n'allez pas attraper la personne qui est électrisée avec vos mains. J'ai un exemple simple à vous donner. Une dame, son mari était en train d'être électrisé dans sa baignoire. Elle est venue, elle l'a attrapé pour le sortir. Les deux ont fait un arrêt cardiaque. Mmh. On a finalement réussi à sauver le mari qu'elle est venue sauver. Mmh.
Donc et c'est elle, protégé de tout à l'heure.
Et elle, on n'a pas pu finalement récupérer aussi son arrêt cardiaque. Donc ça veut dire se protéger avant de secourir. Là, c'est vraiment les premiers pas dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, il faut soit on peut couper le courant. Si on ne sait pas où, ou c'est trop compliqué, il faut avec quelque chose en plastique ou du bois, décrocher la personne du fil électrique ou de la prise électrique. Mais il ne faut surtout pas la toucher en direct.
Alors, il y a aussi des accessoires de la vie courante qui peuvent se révéler dangereux, notamment pour les enfants. C'est le cas d'un exemple que cite Nina du Gabon, les trotteurs. Quand j'étais jeune, on plaçait des youpala. Alors, les trotteurs, dispositif qui permet au bébé de faire les premiers pas, de se déplacer avant qu'il n'acquiert la marche. Donc, c'est une espèce d'installation en cercle avec des roulettes. On met le bébé dedans, assis dans une suspendue. Elle explique que c'est pratique pour les aider à faire leurs premiers pas, mais le risque de chute existe, notamment en présence d'une marche. Et les enfants de Nina en ont déjà fait les frais. Elle voudrait savoir comment éviter ce type d'accident, docteur.
Barrière à l'escalier,
tout simplement.
Où on le surveille d'une part, mais surtout, encore une fois, on risque de ne pas le voir passer. Donc, c'est barrière à l'escalier.
On a une question de Rebecca qui vit à Port-au-Prince en Haïti. Elle vit en famille. Pas mal de monde sous le même toit. Et du coup, il y a des risques en particulier. Elle pointe les risques de chute, notamment quand quelqu'un fait le ménage, lave le sol, ou même quand on prépare de la friture, il peut y avoir de l'huile sur le sol. Elle a bien le sentiment que c'est quasi inévitable. Et ça s'est même passé dans sa maison. Elle a eu un accident chez elle. Il y a un morceau de bloc de ciment qui lui est tombé sur la tête. Elle s'est évanouie. Autour d'elle, on lui a jeté de l'eau pour qu'elle se réveille. Elle a mis un moment à reprendre connaissance. Et aujourd'hui, elle se pose la question, quand on perd connaissance, est-ce que le signe que l'on passe inanimé, c'est oui ou non un signe de gravité de ce qui s'est passé?
Bien sûr. C'est sûr que sur un traumatisme crânien, le fait d'être inconscient nécessite une alerte immédiate. Le problème est que tant que la personne respire, on va la laisser sur le dos. Si jamais, ou dans la position dans laquelle elle est, si jamais elle se met à vomir, et donc que ce vomi va dans les bronches, ou qu'elle ne respire pas en étant sur le dos, tout simplement parce que parfois ça bloque, à ce moment-là, on est obligé de la mettre en position latérale de sécurité. Mmh. Et là, on essaye de le faire en gardant l'axe tête, cou, tronc, toujours comme une droite. Il faut donc retenir la tête et c'est pour ça qu'il faut apprendre la technique de la position latérale de sécurité.
Ça se trouve très facilement.
C'est très facile.
Sur Internet, on regarde dans quelle position est placé, on va dire, le mannequin pour bien comprendre comment le positionner. Très important, on a un choc à la tête, on n'a pas de vomissement, on a une perte de connaissance. Est-ce qu'il faut forcément aller consulter après pour faire une vérification?
Ça dépend de l'évolution. Mmh. Ça, c'est des situations qu'on a très souvent et qui finalement, où les gens viennent éventuellement aux urgences, à partir du moment où il y a une perte de connaissance. D'abord, est-ce qu'elle est brève ou pas? D'autre part, est-ce qu'il y a plusieurs vomissements ensuite? Un vomissement, ce n'est pas la même chose que 3, 4, 5 vomissements. De nouveau, une autre période secondaire où de nouveau, il est inconscient. Mais il y a énormément de traumatismes crâniens qu'on appelle bénins à de moyenne gravité, qui ne vont pas être hospitalisés et pour lesquels, en fait, on va dire à la famille de surveiller. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une aggravation, de toute façon, il faut qu'elle soit hospitalisée. Souvent, les gens ils veulent faire une radio du crâne. La radio du crâne, même si elle est, le crâne est fendu de part en part, ça ne veut pas dire que c'est grave parce que c'est l'hématome qu'il y a au niveau du cerveau qui va comprimer le cerveau, qui va poser le problème.
Ça veut dire qu'il faudra un scanner ou IRM?
Donc, c'est un scanner... avant tout, qui va permettre de voir s'il y a un épanchement, s'il y a eu un saignement, où il est le saignement, sous-dural ou extradural, et est-ce qu'il comprime le cerveau. Maintenant, les signes cliniques d'aggravation, de conscience, de vomissement, vont être des signes qui vont faire qu'on va faire le scanner et qu'on va mettre en surveillance. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu particulier, il ne faut pas hésiter à avoir au téléphone quelqu'un, mais ce qui est sûr, du moment où il y a des troubles de la conscience, c'est grave. Du moment où il y a des vomissements répétitifs, il faut considérer que c'est grave. Il ne faut pas oublier les cervicales.
J'ai une question très, très bête et mécanique. Pourquoi est-ce qu'on vomit quand on a un choc à la tête? C'est quoi le lien?
La pression intracrânienne. Lorsqu'il y a un hématome, c'est le risque, c'est ça. Ou la contusion cérébrale, simplement. C'est-à-dire, si le choc est une contusion, ben, ça peut entraîner. Et le fait que ça revienne après et qu'on a des séries de vomissements, c'est surtout là lié au fait que l'hématome prend du volume. Et ensuite, ça fait une hypertension intracrânienne et ça fait des vomissements.
Autre témoignage, cette fois sur WhatsApp, c'est Joyce du Togo. Elle nous a écrit ce message, je vais vous le lire. Quand elle avait 2 ans, sa fille a bu accidentellement du détergent. Sa mère lui a donné de l'huile de palme. Quelles sont les propriétés de cette huile qu'on utilise contre les intoxications? Bon, là, je pense qu'on va rentrer dans un moment important de l'émission. On revient à ce qu'il ne faut pas faire, je pense, docteur.
Oui, les propriétés ne sont en aucun cas celles pour un cas d'accident. Ce que je dis toujours, lorsqu'on a ingéré un produit, ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire, à part amener tout de suite... à la personne, donc idéalement le gastro-entérologue qui va évaluer ce qui s'est passé en termes de brûlure. L'autre chose par contre, tout ce qui est extérieur, on peut le rincer. Par exemple, si c'est une brûlure chimique, si c'est un produit chimique, on peut rincer avec de l'eau la bouche et souvent l'enfant, il a sur son corps, il y a des produits qui peuvent couler. Et on ne s'en aperçoit pas sur le moment parce qu'on ne voit que la bouche. Donc quand c'est tout ce qui est avalé, tout ce qui est rentré, on ne le fait pas sortir et on ne le rince pas.
On va à l'hôpital aux urgences.
On va à l'hôpital. Et d'autre part, de petits détails aussi, par exemple, les petites piles plates, attention.
Pile-bouton.
Pile-bouton, ça fait des trous. Donc il faut aller les chercher. Alors qu'une pièce, il n'y a pas de souci. On suit à 24 heures avec une radio si elle a bien passé ce qu'on appelle le pylore, c'est-à-dire le bout de l'estomac. Est-ce qu'elle est dans le duodénum? Et on la récupère entre guillemets à la douane, on vérifie que...
Dans les selles, on va retrouver la pièce qui manquait. Autre question par rapport à la nature du produit ingéré. C'est toujours Joyce qui dit « Les petites aiment bien mettre la mousse de savon dans leur bouche pendant le bain. Est-ce que c'est dangereux ?» Moi déjà, première chose Joyce, si elles aiment bien le faire, ce qui est bien, c'est de les savonner et de retirer le savon ensuite. Ensuite, le conseil sur la nature du produit.
Ce qu'on craint un petit peu en fait sur la mousse, c'est qu'en fait à un moment, quand il y a beaucoup de mousse, l'enfant il respire et que cette mousse, elle va dans l'estomac, c'est pas un problème. Par exemple, si vous avalez même du liquide vaisselle, on va attendre, on va mettre à la diète, le temps de l'éliminer, on va surtout pas boire de l'eau pour pas faire de la mousse, parce que le problème de cette mousse, c'est que si on a avalé, elle va remonter, qu'on secoue un peu, elle va remonter et elle va passer dans le poumon. Et là, le problème de la mousse dans le bain, c'est qu'il faut surtout pas qu'il la respire, parce que là, par contre, c'est toxique pour le parenchyme pulmonaire.
Alors, Mauritanie, question de Binta, elle nous a aussi adressé justement un message il y a quelques années, de l'eau bouillante, la bouilloire électrique était débranchée, ça lui a éclaboussé, brûlé la cuisse, et pour se soulager... elle a mis du miel sur la brûlure et elle constate qu'après cicatrisation, 2 ans plus tard, il reste une tache. Miel sur la brûlure, est-ce que c'est une bonne idée?
Encore une fois, non. Par contre, à distance, sur certains types de plaies, mais très à distance, on est amené dans les soins à mettre du miel, mais pas à la phase aiguë. La phase aiguë, encore une fois, ce n'est que de l'eau. L'avantage, il ne faut retenir que eau.
Autre question de Binta, davantage sur la réaction à avoir en cas d'accident, surtout avec un petit bébé. Elle demande comment assister les adultes pour secourir un enfant sans paniquer. Bon, là, on est dans l'urgence, mais on est aussi dans la psychologie. Comment est-ce qu'on fait pour finalement garder les pieds sur terre et la tête froide?
Ben le problème, c'est qu'il faut déjà, idéalement, que les gens aient une petite formation. Ouais. C'est là où l'intérêt d'avoir dans les témoins, si j'ose dire, des gens qui sont un petit peu formés aux gestes d'urgence. Et c'est l'intérêt aussi, sinon au téléphone, de pouvoir avoir un médecin qui va expliquer ce qu'il faut faire. Mais c'est clair que devant ces paniques qui sont quelquefois incontrôlables, c'est toujours l'explication qui permet de le faire et c'est pas toujours facile.
En tout cas, pour Binta, si elle est vraiment intéressée, c'est vrai qu'au niveau national, dans tous les pays, il existe des stages de premier secours.
Oui, tout à fait.
Donc, on peut se renseigner, s'inscrire et faire un de ces stages. C'est accessible à tout le monde. Souvent.
Et une autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut, juste très simple, dans tout ce qui est accidentel, il faut retenir, premièrement, je gère le premier C, c'est l'hémorragie. S'il y a une hémorragie énorme, je l'arrête en comprimant directement dessus idéalement. Et éventuellement un garrot si j'y arrive pas. Ensuite, je regarde si les voies aériennes sont libres. C'est là où on voit si la personne vomit, si elle est sur le dos et qu'elle respire pas. À ce moment-là, on les libère, soit en mettant un petit peu en avant la bouche, soit sinon on met en position latérale de sécurité. La troisième chose, c'est le B, est-ce qu'elle respire correctement ? Donc, il y a les voies aériennes, c'est la liberté des voies aériennes, c'est le vomissement. Et le B, c'est est-ce que les poumons marchent ? Parce qu'à chaque fois, ça nous permet de faire éventuellement des gestes. Et ensuite, le C, c'est la deuxième circulation. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le système global, cœur, poumon, est-ce qu'il n'y a pas une lésion du bassin qui saigne, des choses comme ça. Donc en fait, il faut raisonner de cette façon-là quand quelqu'un va examiner rapidement pour pouvoir faire un bilan. Et à ce moment-là, normalement, et c'est ça à quoi sert la formation, c'est à chaque étape, on va gérer l'étape avant de passer à l'étape suivante.
Alors, on va partir pour le Cameroun maintenant. Une auditrice de Yaoundé, c'est Annie. Elle a une question à nous poser, on l'écoute.
Bonjour, Priorité Santé. Je m'appelle Annie, je vis à Yaoundé, au Cameroun. Alors, depuis quelque temps, on entend beaucoup dans les réseaux, dans les médias, des cas de décès où plusieurs membres d'une famille ont été intoxiqués par un repas qu'ils ont consommé et en sont morts. On parle beaucoup des produits qu'on met à la maison pour tuer les rongeurs ou bien les cafards qui auraient peut-être été en contact des repas et les auraient empoisonnés, ou encore de cet animal, le gecko, qui serait tombé dans la soupe et aurait libéré certaines toxines qui ont empoisonné mortellement les repas. Alors moi, j'utilisais des poudres que j'achetais en commerce pour en fait tuer les cafards à la maison. Je les mettais généralement dans des armoires où les casseroles ou bien les conserves pouvaient être en contact avec. Mais après avoir entendu toutes ces choses, j'ai arrêté. Alors, je voudrais savoir si effectivement ces poudres, ces produits qu'on utilise sont toxiques pour l'homme. Et aussi, est-ce que c'est vrai que le gecko, s'il tombe dans une soupe, il libère des toxines qui empoisonnent et peuvent causer la mort à qui consomme cette soupe. Et comment reconnaître les premiers signes d'une intoxication alimentaire et quels sont en fait les premiers réflexes que l'on devrait avoir le temps d'arriver à l'hôpital. Merci.
Docteur Massamba Sassoun Diop. Alors, d'abord,
c'est tout un programme.
Tout un programme. Le poison contre les insectes et les rongeurs. Alors, si c'est mauvais pour les animaux, est-ce que c'est mauvais pour l'humain ?
Alors, comprenez bien, contre les rongeurs, ce sont des anticoagulants. Donc, on risque de saigner. Parce que ce sont des doses telles, quand elles sont pour l'animal, que ça va le faire saigner et du coup, il va en mourir. Donc là, c'est dose dépendant et donc c'est évident qu'il faut éviter de le prendre puisqu'on peut faire un saignement. La deuxième chose, contre les cafards, j'ai un conseil très simple à donner. Vous prenez de l'acide borique, ça se trouve en pharmacie, en poudre. Vous le mélangez avec du lait concentré sucré, ça fait une pâte. Vous en mettez partout dans la maison, en 3 semaines, vous n'avez plus un seul cafard dans la maison. Et vous pouvez manger cet acide borique avec le lait concentré. Les enfants peuvent le manger, les animaux peuvent le manger. Il n'y a aucun problème de toxicité. Il n'y a que les cafards qui en meurent.
C'est la recette. Par contre, vous parliez justement contre les rats. Il faut faire attention aussi parce que c'est à retardement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les symptômes tout de suite.
C'est 3-4 jours après.
Donc, il faut faire très attention. Ça veut dire aussi qu'on peut agir. C'est important.
Oui. Quant au gecko, là.
Le gecko. Alors, pour les personnes qui sont. Oui, alors, juste une petite description. Pour les gens qui ne sont pas en Afrique ou dans zone tropicale, gecko, on va dire, c'est un très joli petit reptile, une sorte de lézard qui grimpe au mur. Voilà, qui est très chouette.
Qui grimpe au mur.
Mais pas dans la marmite.
Mais pas dans la marmite. C'est son urine qui est toxique. Mais de là à empoisonner toute une famille et qu'elle meure, jusqu'à preuve du contraire, non.
Non, c'est plutôt peut-être une croyance. En tout cas, ce n'est pas recommandé de le faire bouillir non plus.
Mais voilà, mais il y a une petite toxicité de ses urines.
Alors, on va terminer avec une auditrice qui nous appelle du Sénégal. On la prend tout de suite en ligne.
RFI à Dakar. 92 FM.
Et donc, c'est Mariem qui est avec nous. Mariem, bonjour.
Bonjour, Caroline, bonjour.
Alors, Mariem, vous êtes la maman de deux enfants. Ils ont quel âge aujourd'hui, les enfants ?
Il y a le grand qui a 18 ans et le second qui a 12 ans.
Vous avez été marqué par plusieurs accidents à la maison. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous raconter ce qui s'est passé ?
En fait, le premier garçon, celui qui a 18 ans actuellement, lui, à l'âge de 11 ans, il a trébuché, il est tombé sur les carreaux. Quand il est tombé, il n'avait rien, il n'y avait pas de sang, rien du tout. Mais quelque temps après, on a constaté qu'il avait des maux de tête et il vomissait tout le temps. Il vomissait, il avait le regard fixé. Donc, c'est quelque temps après, j'ai dit, mais est-ce que je vais continuer de le laisser comme ça à la maison? C'est mieux que je l'amène à la consultation. Dès qu'on est arrivé, on a vu le pédiatre. Il a conseillé d'aller faire un scanner avant qu'il ne prescrive aucun médicament parce que là, peut-être ça peut être autre chose. On a fait le scanner. C'est après ça qu'on a pu trouver un traitement et après ça va, il a arrêté les vomissements, tout. Il s'est retrouvé 3 jours comme ça après.
Et après le scanner, je m'excuse Mariem, c'était quoi le diagnostic? Il avait eu un trauma crânien? Il avait eu quoi exactement?
Non, heureusement, peut-être c'est ça que le docteur cherchait, mais heureusement, il n'a pas eu ça. Parce que c'est ce qu'il nous a expliqué après, que peut-être quand un enfant tombe d'habitude, il vomit ou bien il tremble ou bien il perd connaissance, de faire attention. Mais moi, c'était la première fois que j'ai eu cette information-là. Mm-hmm. Heureusement que je l'ai amené à l'hôpital, mais si c'était pas ça, comment j'allais réagir si je l'avais laissé à la maison seulement en pensant qu'il faut lui donner les médicaments ou bien continuer comme ça?
Ben en tout cas, vous avez eu le bon réflexe de l'amener à l'hôpital, c'est une bonne chose. Vous aviez un autre événement qui s'était produit pour votre autre fils ?
Oui, lui, c'est à la piscine, il s'est noyé au moment où je partageais le goûter à ses cousins et tout ça. Il s'est échappé et il s'est jeté dans le grand bassin du coup. Il se noyait déjà quand j'ai remarqué qu'il n'était plus dans le groupe. On a commencé à le chercher, c'est là après. C'est notre chauffeur qui a vu que là, il était en bas. Et moi-même, je l'ai vu aussi en bas de l'eau en train de se noyer. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais rien faire. Mmh. Mais lui, il l'a cherché. Il est rentré dans la piscine. Il l'a tiré rapidement. Il l'a secoué. Et après, ça va, quoi.
Grosse panique, j'imagine, Mariem.
Oui, vraiment trop de panique. J'avais trop peur. Et c'est tout cela aujourd'hui. J'ai pensé parce que aussi pour savoir quand il y a ce genre de cas-là, les noyades pour les enfants, tout, comment réagir quand on voit ce genre de situation, comment je peux faire.
Aujourd'hui, vous avez peur quand les enfants ils s'approchent d'une piscine? C'est resté quelque chose qui vous a beaucoup marqué?
Oui, vraiment, surtout lui, oui, toujours peur.
Mais vous savez, cette peur, je pense que si je me tourne vers le docteur Massamba Sassoundo Diop, il va dire vous avez raison parce qu'il faut rester extrêmement vigilant dans ce genre de situation.
Oui, exactement. Mais c'est cet exemple, c'est exactement ce qui se passe. On l'a eu il y a très peu de temps encore dans un hôtel avec un enfant de 3 ans qui s'est noyé. L'enfant échappe à la surveillance. Donc, ça sous-entend théoriquement, idéalement, de mettre des barrières autour de la piscine où il y a des systèmes de tapis qui empêchent. Voilà, bon. Il y a aussi des systèmes d'alarme. Dès qu'il y a quelque chose qui tombe, ça crée une alarme du moment où on l'allume. Donc, en fait, bon, il y a différents systèmes en prévention. Mais là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, on a eu de la chance là parce que c'est un aquastress. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, a dû descendre. Et en fait, naturellement, l'eau ne rentre pas spontanément. Il y a d'abord la glotte qui se ferme. Et si l'enfant reste, il va avaler et l'eau va rentrer, il va respirer à fond, il va rentrer. Et elle ne rentre jamais en très grande quantité. Donc si jamais il avait été sorti et qu'en le stimulant, il n'y avait pas de réponse, que l'enfant ne réagit pas, ne respire pas, à ce moment-là, il faut lui faire des ventilations dans bouche à bouche, en prenant bouche et nez. Ça fait respirer et ensuite faire le massage cardiaque, ventilation, en ayant alerté les secours pour qu'ils viennent le plus rapidement possible. Mmh. Donc ces massages cardiaques à au moins 100, entre 100 et 120 par minute, et faire respirer. On fait 5 d'abord, et ensuite c'est 32. Et chez l'enfant, le tout petit, c'est normalement 15-2, mais retenez 32. Mais chez le tout petit, normalement, c'est 15-2.
32, est-ce que vous...
30 massages. Mmh. Pour 2 respirations.
D'accord.
Avec une fréquence au minimum du cœur de 120, entre 100 et 120 par minute.
Donc, c'est-à-dire qu'on a une bonne rythmique, justement, d'appuyer.
Doum, doum, doum,
on en fait
doum,
30.
C'est ça, la fréquence.
Deux respis. Voilà. 30 ouais. de respi.
Exactement. Mm. Et on alerte. Et en fait, c'est extrêmement important d'entamer ça le plus tôt possible, du moment où l'enfant est inconscient et ne respire pas. Inconscient, ne respire pas. S'il respire, on le met en position latérale de sécurité. Et l'autre chose par rapport à son trauma crânien, ce qu'elle décrivait, elle a eu probablement une contusion cérébrale et non pas un hématome. Mm. C'est pour ça qu'en fait, l'enfant n'était pas bien, mais il n'y avait rien au scanner. C'est qu'à l'IRM, on aurait peut-être vu les petits éléments de contusion.
Voilà pour ces explications. Mariem, on a compris hein, que vous aviez des craintes. Vous y avez pensé, vous, par exemple, à faire un stage de secourisme, justement, pour vous rassurer aussi psychologiquement?
Oui, je veux bien le faire. C'est vrai que j'ai plus de petits enfants comme ça, mais en fait, je n'ai pas encore trouvé autour de moi quelqu'un
qui pourrait vous enseigner ça. Bah, à Dakar, ça se fait. Hein. On a le premier intéressé qui va pouvoir vous l'indiquer. Docteur Diop, c'est vrai que ça se fait à Dakar de faire ces stages de secourisme.
Vous avez la chance au Sénégal, vous avez différentes structures. Même nous, on en fait souvent gratuitement. Il y a les pompiers qui en font. Il y a différentes structures. C'est vraiment facile de se mettre dans un programme. On les fait aussi dans les écoles et tout. Donc, il n'y a aucun problème pour le faire. Allez voir sinon la Croix-Rouge, les pompiers. Voilà. Ou même entrer en contact avec nous.
Qui s'en occupe. Merci beaucoup, Mariem, pour votre appel. Un grand merci à vous. Le temps passe vite en votre compagnie, docteur Massamba Sassoun Diop, pour toutes ces explications, des cas concrets, votre éclairage. Avant de se dire tout à fait au revoir, on va se laisser en musique avec Gabriela Lima, Vani, Seme, Chamal et vous.
No alaranjado esplendor, sal no corpo é sabor pra lembrar. Sim, eu sei, meu país, eu tô longe, eu parti. No inverno a Paris e te sinto daqui. Mas se me chamar eu vou, sigo o sol e quero pôr. Minha sede é de mar, meu respiro é o calor. Mas se me chamar eu vou, sigo o sol e quero pôr. Sou daqui, sou de lá, meu destino é o amor. Quero calor, quero amor. Si tu laissais le vent emporter tes tourments en chemin, que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux un matin. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. Toujours pas demain. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau. Le monde beau, changer de peau. Chamar eu vou, sigo o sol e quero cor. Minha sede é de mar, meu respiro é o calor. Mas se me chamar eu vou, sigo o sol e quero cor. Sou daqui, sou de lá, meu destino é o amor. Mas se me chamar eu vou, sigo o sol e quero cor. Minha sede é de mar, meu destino é o calor. Mas se me chamar eu vou, sigo o sol e quero cor. Sou daqui, sou de lá, meu destino é o amor.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pou, Didier Bleu et Arthur Bon à la réalisation. Lundi, on va parler de la dépression au féminin, symptômes, lutte contre les préjugés. Pourquoi les femmes sont-elles deux fois plus touchées que les hommes? Quel est le rôle des violences sur la santé psychique des femmes? On se retrouve lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.